Vous écoutez, on lit pour vous.
La gestion des réseaux sociaux des jeunes, vue par les jeunes. Un texte de Maude Goyer, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. L'utilisation des écrans chez les jeunes, particulièrement celle des réseaux sociaux, est décriée depuis plusieurs années par les parents, le personnel scolaire et les experts. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Une vingtaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans, de partout au Québec, ont accepté de nous parler. Compte rendu. Ça ne nous empêche pas d'être social. Les réseaux les plus populaires. Question simple pour commencer. Quels réseaux sociaux utilisent-ils sur une base quotidienne? Le champion des réponses, Instagram. Suivi par Snapchat. J'ai supprimé TikTok parce que ce n'est pas très éducatif, confie Maëva Gabouri, une élève de 17 ans du collège de Maisonneuve. Je suis des comptes intéressants sur Instagram qui parlent de contenus qui touchent l'actualité, la politique, les sciences, et je suis mes amis, bien sûr. Comme la majorité des adolescents, Gabrielle Laflamme, 17 ans, utilise la messagerie d'Instagram pour parler avec ses amis. On passe aussi par là pour les travaux d'équipe à l'école, ajoute-t-il. C'est un point commun pour les communications. Tout le monde a Instagram. Limite de temps. Au sujet du nombre d'heures passées sur leur téléphone à scroller et errer sur les réseaux sociaux, les ados interrogés répondent sans hésitation, avec candeur. Certains prennent le temps de vérifier leur bilan numérique à même leur téléphone avant de répondre. Les réponses varient grandement. De 7 à 30 heures par semaine, avec une moyenne qui se situe à 15 heures 24 minutes. Ma propre consommation m'inquiète. Témoigne Florence Comeau, 16 ans, dont le temps d'écran frôle les 30 heures par semaine. Ce n'est pas toujours facile d'arrêter, car on devient accro et on a le cerveau dans le gelot. Clovis Bayeux, un élève de 17 ans, estime qu'il passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Je me force à le mettre en mode « ne pas déranger » quand j'ai des tâches ou des devoirs à faire, dit-il. Et quand je suis avec mes amis, je ne l'utilise pas. Mais si je suis seule, c'est un réflexe, comme pour pas mal tout le monde. Voilà un point apporté par tous. En présence d'amis, les écrans sont inutiles. J'aime bien mieux voir mes amis en vrai que de leur parler par texto, souligne Adrien Turcotte, 14 ans. C'est toujours mieux en vrai. Pour Maggie Boulanger, 16 ans, le cellulaire vient pallier la solitude, mais freine les élans sociaux. C'est pratique d'aller sur les réseaux sociaux, mais quand tu te retrouves seul sans tes amis, mais ça t'empêche d'aller parler à du nouveau monde. Les règles de l'école. Toutes les écoles réglementent l'utilisation du téléphone dans les heures de classe, mais les façons de faire sont variées. Certaines exigent que le cellulaire reste dans le casier toute la journée, y compris pendant l'heure du dîner, et d'autres le permettent sous certaines conditions. En arrivant dans un local, on doit déposer notre téléphone dans une pochette numérotée à l'entrée, explique Alexis Panton, 15 ans. On est invité à le récupérer pour faire certaines choses, comme avoir accès à un corrigé, faire un Kahoot ou écouter de la musique. La majorité des élèves sont d'accord avec ça. Je trouve que c'est un bon compromis. Sophia Chemrook, 13 ans, fréquente une école de l'Est de Montréal où le téléphone doit rester dans le casier. Nous n'y avons pas le droit sur l'heure du midi ni pendant les pauses, dit l'élève de première secondaire. Et notre iPad non plus. Au début, j'étais fâchée, Mais au fond, c'est mieux. Je suis plus concentrée en classe. Leur solution. Comment mieux gérer son temps d'écran? Enlever les notifications et le placer en mode « ne pas déranger » ou en mode « avion » sont les réponses qui reviennent le plus fréquemment. Une autre réponse populaire? Attendre que les parents interviennent. J'arrête quand ma mère me dit d'arrêter, lance Julie-Étienne, 12 ans, qui vient juste d'obtenir son premier téléphone. Certains préfèrent éloigner la tentation. Ils remettent leur téléphone à un de leurs parents, à leur frère ou sœur. Discipliné, Raphaël Galvez, 15 ans, laisse son téléphone au rez-de-chaussée avant de monter se coucher. « Je préfère lire que de scroller n'importe quoi », indique-t-il. « C'est devenu une habitude. C'est inséré dans mon horaire. » Son frère, Mathis, 17 ans, aime déterminer un nombre de minutes de temps d'écran par jour. « Quand je dépasse ce temps, je fais autre chose », note-t-il. Lucide et résilient, les adolescents interrogés considèrent tous que la gestion des écrans est un enjeu réel pour leur génération, comme pour les gens en général, clame-t-il. Oui, parfois, on est un peu trop sur nos téléphones, mais il ne faut pas virer fou, glisse Loïc Lessard, 17 ans, en première année de cégep. Ça ne nous empêche pas d'être social. Adrien Turcotte nuance. Ça peut devenir agaçant quand on parle juste de ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Les écrans peuvent absorber trop de temps. Ça gobe la vie des gens, pas juste des jeunes. L'avis de l'experte. Anne-Marie Turcotte-Tremblay, professeure en santé publique et en santé communautaire à l'Université Laval, co-dirigeante de l'étude longitudinale COMPASS, Québec, qui s'intéresse au mode de vie et à la santé des adolescents, rappelle les règles de base pour une utilisation saine des écrans. Est-ce que les jeunes font trop de temps d'écran? La recommandation au Canada, pour les adolescents, c'est de passer un maximum de 2 heures sur les écrans de façon récréative par jour. Environ la moitié des jeunes respectent cette règle. La plupart sont hyper connectés parce qu'ils ont des appareils mobiles et qu'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux et Internet n'importe où, n'importe quand. Il y a une perte de contrôle du temps passé sur les écrans. Quels sont les effets d'une utilisation excessive des réseaux sociaux? La baisse d'activité physique et la sédentarité, premièrement. Ensuite, cela a un impact sur le sommeil, autant la quantité que la qualité. Les effets sur la santé mentale sont démontrés par plusieurs recherches. Les symptômes d'anxiété augmentent, les signes de dépression, la faible estime de soi. Et il y a aussi les coûts d'opportunité. Le temps d'écran empiète sur les autres activités, comme les moments partagés avec les amis en présentiel et le temps passé dehors. Quelle solution mettre en place? Le but est de trouver un équilibre entre le temps passé en ligne et les autres activités, sans quoi on risque la monomanie, soit de développer de l'intérêt pour une seule activité. Cela peut engendrer de la cyberdépendance. Il faut d'abord prendre conscience du temps qu'on passe sur les écrans. Ensuite, on peut limiter ce temps grâce à des applications. Aussi, le modèle parental est crucial. Il faut prêcher par l'exemple. Préserver les moments en famille sans écran, par exemple lors des repas, est une bonne idée. Tout comme le fait de retirer le téléphone de la chambre à coucher. Je recommande aussi de ne pas initier trop tôt les enfants aux réseaux sociaux. C'était La gestion des réseaux sociaux des jeunes vus par les jeunes. Un texte de Maude Goyer, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.
La forêt qui se relève. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 octobre 2024 dans Québec Science. Après avoir été quasiment anéantie, la forêt du Népal a pu être régénérée. Une histoire inspirante. Dans les années 1980, au Népal, des hommes et des femmes se promènent, souvent pieds nus sur la rocaille, charriant du bois, des branches et du feuillage sur leur dos. Ces gens doivent marcher des heures pour trouver quelques arbres esselés, de quoi se chauffer, cuire leurs aliments et, avec les feuilles, nourrir leurs bêtes. Les collines népalaises, autrefois verdoyantes, subissent une déforestation galopante. La population du pays, en voie de doubler en 30 ans, surexploite la forêt pour survivre. À cette cadence, les milieux boisés s'éclipseront avant l'an 2000. De terribles conséquences se déchaînent. Rien ne retient la pluie de la mousson dévalant les vallées. Des crues soudaines et des glissements de terrain menacent les villages. Les sols s'érodent grassement. Sur les collines nues, le fourrage se raréfie pour les buffles, les vaches et les chèvres. Quand ces bêtes n'ont plus rien à manger, on manque de fumier pour cultiver le riz, le millet et le pois. Impossible d'opter pour les engrais de synthèse, trop chers et pénibles à importer dans les villages de montagne dépourvus d'accès routier. Cette catastrophe suit la nationalisation des forêts du Népal en 1957. Le gouvernement avait alors mis un terme au régime féodal qui prévalait depuis des siècles. À court de ressources administratives et techniques, l'État se révèle toutefois incapable de gérer et de protéger les forêts. Les communautés rurales, exclues du processus, malmènent leur boisé local. À la fin des années 1970, le problème de la déforestation devient si criant que le gouvernement reconnaît son faux pas et lance, avec l'aide de donateurs étrangers, des projets de reboisement. Dans les villages, on démarre des pépinières. Sur les collines, on plante de jeunes pousses. Surtout, on implique les gens des villages. Des comités locaux décident des espèces d'arbres et des cultures fourragères plantées. Ils encadrent la récolte du petit bois et du fourrage. Ils régulent l'accès des animaux aux plantations. En 1984, le journaliste américain Eric Ekholm, en reportage dans la montagne népalaise, croise une dame, petite faux à la main, panier sous le bras, qui se dirige vers la plantation de son village pour récolter du fourrage. Nous tirons beaucoup plus d'herbes de ces terres maintenant qu'elles sont protégées, et notre buffle produit plus de lait, explique-t-elle avec satisfaction. Les collectivités récoltent rapidement les fruits des nouvelles mesures. Pendant une quinzaine d'années, une série de réformes permet aux villages népalais de se réapproprier leurs boisés. En 1993, une nouvelle loi consacre le modèle décentralisé de la foresterie et crée les groupes communautaires d'utilisateurs de la forêt, GCUF. Ces entités sont gouvernées par des assemblées générales où toutes les familles du territoire ont un siège. Un comité exécutif est élu. Pour avoir le droit de gérer sa forêt, chaque GCUF doit présenter un plan d'aménagement au gouvernement. Il décide des activités qui y seront pratiquées, la coupe de bois, le pâturage, la récolte de fourrage, la production de fruits, etc., et fait appliquer les règles décidées collectivement. Ses membres empochent les profits. Le programme connaît un vif succès. Existe aujourd'hui plus de 22 000 GCUF au Népal qui rassemblent près de 3 millions de familles. Ces groupes gèrent 2,3 millions d'hectares, 38 % des forêts publiques. L'ambitieuse politique népalaise aura contribué à un rebond impressionnant des forêts du pays. Entre 1992 et 2016, la couverture forestière a presque doublé au Népal, passant de 26 à 45 % du territoire. La modernisation et l'enrichissement du pays, lequel ne dépend plus aussi étroitement de l'agriculture traditionnelle et qui ne cuisine plus sur les braises, joue également un rôle important dans sa reforestation. Une telle trajectoire n'est pas atypique à l'échelle mondiale. Les géographes l'appellent « transition forestière ». Selon cette théorie, les sociétés abusent de leurs forêts durant une phase de développement rapide, puis elles délaissent le bois au profit d'énergies plus efficaces, fossiles nucléaires renouvelables, et adoptent une agriculture plus productive, qui accapare moins de terres. Après avoir atteint le fond du baril, le couvert forestier remonte. Le Népal n'est pas le premier pays à effectuer cette transition. La France, l'Écosse et la Chine sont passés par là, mais la vitesse de son revirement étourdit. Un défi important demeure pour arriver à un nouvel équilibre. Transformer les plantations népalaises en riches écosystèmes, où tant les tigres que les humains trouvent leur compte. C'était « La forêt qui se relève », un texte d'Alexis Riopel, paru le 3 octobre 2024 dans Québec Science.
Campé devant l'Assemblée législative pour sensibiliser à l'itinérance, un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 7 novembre 2024 dans L'Aurore boréale. Dans le cadre de la semaine de responsabilisation sur la pauvreté et le sans-abrisme, une marche au centre-ville de Whitehorse a été organisée le 25 octobre dernier par la coalition anti-pauvreté du Yukon. L'objectif était d'inciter le gouvernement à prendre des mesures concernant plusieurs défis comme le logement, le transport en commun, la sécurité alimentaire et l'accessibilité. La marche s'est clôturée devant l'Assemblée législative, là où Sylvie Binette, franco-yukonaise, a passé la nuit. Cette dernière en connaît un rayon sur ses défis, puisque son fils est directement touché par les différentes crises que traverse le Yukon. En effet, en avril dernier, après l'annonce de fermeture pour rénovation du centre d'hébergement temporaire de Safe at Home, 11 des personnes résidentes n'ont pas été relogées, dont le fils de Sylvie Binette. Ce dernier vit en situation d'itinérance depuis plusieurs années. « Il dort dans son camion ou chez des connaissances », dit-elle. Appel à l'action. En signe de soutien et en écho à la semaine de responsabilisation, la franco-yukonaise a bravé le froid et a passé une nuit dans sa tente au bord de la 2e avenue devant l'Assemblée législative. Un lieu sécuritaire, selon elle, car il est bien éclairé, contrairement aux lieux précaires choisis par les personnes itinérantes qui plantent leurs tentes aux abords de la ville, dans les bois, mentionne-t-elle. Sylvie Binette rapporte également avoir reçu le soutien de nombreuses personnes et de son entourage qui lui ont apporté des boissons chaudes le soir et le matin. Elle a également réussi à attirer l'attention du premier ministre, Ranj Pillai, qui est passé la voir. Toutefois, au moment d'écrire ces lignes, Sylvie Binette est toujours en attente de le rencontrer afin de lui faire valoir ses points. Son action a toutefois porté des fruits, car depuis jeudi soir, soit la veille, son fils a trouvé un logement temporaire dans un hôtel. « Mais ça ne règle pas le problème des autres », rappelle-t-elle. « Beaucoup d'hôtels ne veulent pas louer, et ça, c'est un problème. Même si les personnes itinérantes ont de l'argent pour payer, il y a beaucoup de stigmas associés aux sans-abri et aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut dépasser ça. Ça n'a pas de bon sens d'avoir cette situation dans un pays riche », soutient-elle.
plusieurs difficultés. Malgré ces messages de sollicitation envoyés à plusieurs ministres du gouvernement territorial, les réponses ont été, selon Sylvie Binette, décevantes et floues. Une réponse tardive lui a été envoyée l'informant que son fils pouvait s'inscrire sur la liste d'attente de la société d'habitation Yukon Housing. Toutefois, il faut attendre parfois plus d'un an pour trouver un logement social, déplore-t-elle. Elle aborde aussi les difficultés et la lenteur à recevoir de l'aide financière, car il est parfois difficile de cocher toutes les cases pour l'obtenir. Par exemple, les personnes qui reçoivent des fonds d'autres programmes, tels que ceux offerts par des transferts de fonds au gouvernement des Premières Nations, ne sont plus nécessairement admissibles à l'aide sociale du gouvernement du Yukon, rapporte-t-elle. De plus, ces aides ne sont pas toujours suffisantes, selon Mme Binette. Présentement, les hôtels chargent 2 000 $ par mois pour une chambre. Avec les aides, tu reçois environ 1 200 $. Fait que là, le monde, ils se mettent soit ensemble dans une chambre, ou ils prennent leur argent qu'ils reçoivent pour la nourriture aussi, pour payer le reste. Elle estime que le gouvernement pourrait réagir, et plus rapidement, comme lors de la pandémie de la COVID-19. Selon elle, ce n'est pas une question de pouvoir, mais plutôt de vouloir. C'était, campée devant l'Assemblée législative pour sensibiliser à l'itinérance, un texte de Gwendoline Le Baumin, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale.
Agatha All Along, première véritable incursion d'un personnage gay dans l'univers Marvel. Un texte de Benoît Mignot, paru le 30 octobre 2024 dans le magazine Fugue. C'est en 2021 que la série WandaVision frappe de plein fouet le petit écran et génère les théories les plus folles. Depuis lors, une suite était attendue avec impatience, puisque certaines questions demeuraient en suspens. La série Agatha All Along, Agatha à chaque fois, apporte plusieurs réponses, tout en exhumant des limbes, ou des enfers, un personnage iconique. L'action s'amorce alors que le cadavre d'une jeune femme est découvert. L'enquêtrice, Catherine Han, flaire que quelque chose cloche, et pas seulement avec le meurtre, mais sans pouvoir en déterminer la nature. Il s'agit de l'intervention d'un mystérieux adolescent, fantastique Joe Locke de la série Heartstopper, qui ramène à la vie sa mémoire défaillante. Elle est une sorcière, Agatha Harkness, à qui on a volé ses pouvoirs et 3 ans de son existence. L'univers dans lequel elle évoluait jusqu'alors n'était que fiction. Pour retrouver sa puissance et échapper à une horde sanguinaire, elle doit constituer un sabbat de sorcières et emprunter une route maléfique, semée d'épreuves, où les survivantes verront leurs souhaits exaucés. Elle réunit donc plusieurs sorcières déchues, formées par la crème des actrices, Debra Jo Rupp, Audrey Plaza, Sashir Zamata, Aliane et Patty LuPone, ainsi que l'adolescent afin de pénétrer dans une dimension tissée à même les clichés des séries et des films associés à la magie noire ou aux femmes en position de pouvoir. On y retrouve notamment des références au giallo, un genre italien qui combine le policier, l'horreur et l'érotisme, au magicien d'Oz et même à l'univers aseptisé de la série Real Housewives. La série résiste à la tentation de faire d'Agatha une bonne sorcière et maintient au contraire sa part d'ombre, tout en semant de nombreuses questions sur son passé. A-t-elle bien tué de sang-froid pour gagner ses pouvoirs? Est-il vrai qu'elle a sacrifié son fils, Nicholas Scratch, pour mettre la main sur un livre de sortilège? Par ailleurs, qui se cache derrière l'ado? Un sortilège empêche quiconque de découvrir sa véritable identité. Qui a lancé un tel sort et que cherche-t-on à cacher? Bien que la série ouvre plusieurs pistes, notamment une voulant que l'ado serait la réincarnation de Nicolas Scratch, tout semble indiquer qu'il s'agisse de Billy Maximov, le fils de Wanda et de Vision, qui a sombré dans le néant à la toute fin de WandaVision. Au-delà de son apparence, calquée sur celle de la BD, plusieurs autres indices nous orientent dans cette direction. Il est gay, la série mentionne le démon Mephisto, auquel il est normalement associé, et lorsqu'il réalise ses premières incantations, il répète les formules à 3 reprises. Son arrivée sonne ainsi la venue de l'un des sorciers les plus puissants de l'univers Marvel, Wiccan, et annonce également la formation de l'équipe des Young Avengers, ainsi que l'avènement d'un personnage d'une importance cosmique, Teddy Altman, dit Hulkling, son futur petit ami. Considérant la frilosité habituelle de l'univers cinématique Marvel au regard de l'homosexualité, on ne peut qu'accueillir avec enthousiasme, mais également avec prudence, cette entrée fracassante. Une série qui ménage de nombreuses surprises et n'hésite pas à flirter avec l'horreur, tout en versant allègrement dans l'humour noir. Au fil des épisodes, le voile du mystère s'éclaircit et s'obscurcit d'un même souffle, alors même que vérités et mensonges s'entrelacent. Décision étrange de Disney au regard du doublage français. Depuis la série Echo, Disney semble avoir cessé de produire un doublage québécois pour plusieurs de ses séries. Le doublage réalisé en France est généralement de bonne qualité, mais rend rarement compte de la réalité nord-américaine. À titre d'exemple, dans la série Echo, des membres des Premières Nations utilisent le terme « amérindien » pour se désigner, alors que plus personne au Québec ou en Amérique n'emploie cette expression. Bien qu'on ne retrouve pas de tels faux pas dans le doublage de la présente série, on ne peut que regretter que Disney maintienne cette décision, puisque bien que le produit final soit correct, il n'est pas aussi inspiré que celui de WandaVision qui avait été réalisé au Québec. À noter cependant l'excellente traduction de la chanson « La balade de la route des sorcières », qui sert de porte d'entrée vers la dimension maléfique. Les 9 épisodes de Agatha All Along, Agatha à chaque fois, sont disponibles en anglais et en français sur Disney+. C'était Agatha All Along, première véritable incursion d'un personnage gay dans l'univers Marvel. Un texte de Benoît Mignot, paru le 30 octobre 2024 dans le magazine Fugue.